Merci, merci d'écouter Radio Bonheur, 19h06, c'est le magazine des déchaînés du football. Bienvenue chez les footeux ce soir avec Radio Bonheur. Les footeux en fête ce soir, puisque les trois équipes que nous suivons ont toutes gagné.
Ah oui, là, les amis, c'est la fête dans les studios de Radio Bonheur, jour férié, oui. Décrété. 3 sur 3, première fois de la saison, mon gars Étan Pinel.
Exactement, première fois cette saison que cela arrive pour le...
Ah, on n'entend pas... Ah, on a un souci avec le micro.
Je vais prendre celui-là. Première fois cette saison, en effet, que ça arrive pour nos trois clubs, Lorient, Brest et Guingamp, qui se sont tous imposés ce week-end, et avec pas mal de buts en plus. Hein, 7 buts au total, 2 victoires à domicile, 1 à l'extérieur. Donc c'est un week-end, en effet, qui s'est très très bien passé.
Voilà, c'est la fête. C'est la fête, je peux vous dire. Gaëtan, il est venu avec les serpents.
C'est la première fois, ouais, cette saison. Hein.
Ah ouais, et je crois que l'année dernière, ça a dû arriver 2-3 fois. On va mettre ça dans les records de Radio Bonheur. On va revenir donc sur Brest qui a cartonné contre Angers. C'était un match qu'il fallait gagner. Ils l'ont bien et joliment gagné, les Brestois. 4-0. On reviendra aussi sur la soirée de vendredi, soirée folle, hein, avec la belle victoire de Lorient contre Rennes. Oui. 2-1. Une belle soirée au Moustoir, avec notamment une super première période. Et puis la victoire un peu moins sexy, mais très importante, de Guingamp à Rodez. On commence par Brest, on commence par le plus récent finalement.
Exactement, on commence par Brest et par le carton du week-end finalement. 4-0 donc face au SCO d'Angers. C'était le match à absolument gagner, hein, pour le SB 29 face à la Lanterne Rouge, parce qu'il y avait la possibilité de sortir de la zone rouge, mais surtout de distancer Angers. Et puis d'un point de vue confiance, c'était évidemment impératif de gagner ce match face au SCO hier après-midi. C'est chose faite, victoire dans les grandes largeurs. On écoute le résumé de ce Brest-Angers.
Benteleb pour frapper ce corner devant le COP brestois. La déviation qui va frôler le bon tour de Bizot à l'opposé. Première grosse occasion pour les Angevins sur cette tête là-bas d'Adrien Hunou. Jeu direct vers Franco Dora. Dora qui est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oui, deuxième poteau, peut-être la tête.
Ah oui, c'est le but.
Le doigt rond. Jérémy Le Doigt rond, exactement, qui ouvre le score comme à l'aller. Il en avait marqué deux au stade de Montpellier. Il ouvre le score à Francis Leblay. Et Brest, sur sa première occasion, ouvre le score face à la Lanterne Rouge. 1-0 pour les Tizèf. Le centre et la tête sur la barre. La barre de Blazic pour le SCO d'Angers qui réagit fort. 26e minute de jeu. Oh,
deux actions coup de
souffle.
Pour retrouver Pierre Lesmelou et maintenant Hugo Magnetti. C'est bien joué, il y a un décalage. Il faut retrouver Mounier. Mounier dans la surface et la parade. La parade de Bernard Donny sur cette frappe qui portait à l'opposé. Honora qui va accélérer le centre, peut-être vers le Doiron et vers Mounier. Et la parade est le deuxième. Il est rentré pour Steve Mounier.
Oui, ça, il est accordé. Il est accordé.
Il est accordé.
J'ai eu un petit peu peur au départ qu'il y a un geste.
Et dans une partie pillard, Jackie, il a but du stade Brestois parce que ce ballon a été repoussé au départ par Bernard Denis. Finalement, en embuscade, Mounier qui en tombant est parvenu à rabattre le ballon dans le but.
Je ne sais pas comment il l'a mis, mais il l'a mis.
Il l'a marqué, et bien là est l'essentiel. 2-0 pour les Tizèf. Oui, à l'issue d'une défaite face à Nancy, notamment ici lors de la dernière journée.
Ah oui.
Et Franck Honora récompensé par un but cette fois, son troisième de la saison après avoir été décisif par la passe sur les deux premiers buts. Il vient marquer à son tour. Franck Honora, ça fait 3-0 pour le Stade Brestois. La récompense est belle pour le numéro 9.
Et il le mérite, ce but, Franck Honora.
Le centre, la reprise. Oh, la tête de Le Doiron à côté, le centre était parfait. De Franck Honora et la tête de Le Doiron à côté du montant. On suivra ça
tout à l'heure.
Le 17h05.
Avec la frappe de Las Pelou pour le quatrième but. Ça y est, Brest s'amuse dans ce match 4-0. La troisième fois dans sa carrière qu'il marque face aux Angevins, Pierre Lespelou, une équipe qu'il affectionne tout particulièrement. Et le Stade Brestois va soigner aussi son collaverage. 4-0 face au SCO. Et même pas de temps additionnel, on s'arrête là. 4-0 pour le Stade Brestois. Ouais, on a arrêté là au vu du score fleuve. Large victoire du Stade Brestois.
4-0, une victoire incroyable des Brestois, c'est la plus grosse victoire de Brest de la saison.
Exactement, il y avait eu jusque-là des 2-1 ou des... enfin 1-2-1 et 2-3-1, jamais de 4-0 pour le Stade Brestois. On se fait la réflexion d'ailleurs, Pierre, en deux matchs contre Angers, Brest a gagné 7-1 si on aligne l'aller et le retour face aux pauvres Angevins, bien décroché dans ce bas de tableau. Une victoire qui fait grandement de bien au Stade Brestois et à Franck Honorat. La réaction globale de l'ailier et homme du match hier.
Ouais, c'était important pour nous de gagner ce match. On savait que ça allait être un match très très compliqué parce qu'eux aussi jouent leur survie. Donc c'était important pour nous de le gagner. Et comme j'ai dit, il y a très peu de temps qu'il fallait être lucide et très bon dans le dernier geste. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc c'est bien.
Ouais, ils ont été en effet lucides dans le dernier geste et lui particulièrement, on va y venir évidemment, mais Franck Honorat a fait vraiment un très gros match hier et est en train de retrouver de l'allure dans ce championnat de Ligue 1. Le match d'hier, Pierre, face au SCO, il y avait la crainte évidemment de voir une équipe de Brest avec un peu la peur au ventre, le frein à main, la peur de perdre plutôt que l'envie de le gagner.
Bah, c'est vrai que Angers qui vient d'enchaîner sa 12e défaite de suite, forcément tous les clubs vont se dire on ne veut pas être l'équipe qui va briser cette série. Donc là effectivement il y avait un peu cette peur autour de Brest, surtout que les résultats à domicile sont pas fameux du tout cette saison. Une seule victoire.
La deuxième après celle contre 3.
Ouais, effectivement, donc oui, il y avait cette peur là, mais ça a été bien, peut-être bien préparé, ça c'est vous qui allez nous le dire, Gaëtan, mais surtout ce qui a été très important dans ce match, c'est de marquer rapidement. C'est comme en Coupe de France, quand vous jouez contre une équipe de National ou de N2, on dit toujours le premier but c'est le plus difficile à mettre.
Oui.
Et ben c'est ce qui est arrivé par le doigt.
Brest a marqué rapidement, ce qu'il a souvent du mal à faire à domicile, et la préparation mentale essentiellement dans la semaine avait été bien amenée par Eric Roy.
Moi j'ai pas trop dit dans la préparation du match, et notamment aux joueurs, mais il y a quand même une obligation de gagner ce match-là. Et quand tu dois absolument gagner un match, c'est toujours difficile de la préparer. La préparation du match, elle sert à ça, à essayer de ne pas générer du stress inutilement. Parce que rabâcher toute la semaine, il faut gagner, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est d'infuser les ingrédients qu'il faudra y mettre pour parvenir à l'objectif. Plutôt que de rabâcher que c'est une victoire impérative et qu'on est obligé de le faire. Donc c'est ça qui m'intéressait plus. Les garçons se sont focalisés sur ça, sur les ingrédients qu'on voulait y mettre. Et voilà, donc il y a une satisfaction, elle est multiple, hein, tous les attaquants ont marqué. Il y a les défenseurs et les gardiens, le gardien qui n'a pas pris de but, c'est aussi important pour eux.
Ouais, satisfaction multiple parce que ça n'arrive pas souvent que Brest ne concède pas de but cette saison.
On était plus habitué.
Ouais, troisième fois seulement cette année sans encaisser de but en championnat. Et puis surtout la victoire, c'était évidemment l'essentiel avec ses 4 buts. Avec Jérémy Le Doiron aussi qui a retrouvé le chemin du but. Il en avait marqué 2 à l'aller.
Oui, 3 buts sur 4 contre Angers cette
Exactement,
saison.
Exactement, 2 à l'aller, 1 hier et l'autre c'était à Clermont. Franck Honorat, on a dit, on y viendra un peu après, mais a été étincelant. Pierre Lesmelou a marqué. L'autre attaquant Mounier a marqué. Les trois attaquants, comme disait l'entraîneur, ont marqué hier. Ça, c'est quand même des signes encourageants, même si à relativiser parce que Angers, en effet, est sur une spirale catastrophique. Mais quand même, ce n'est pas à minimiser non plus.
Ah non, quand vous marquez 4 buts en Ligue 1, c'est pas qu'il faut. Après, des fois, on trouve des excuses comme ça, comme quand on gagne à 11 contre 10. Oui, mais l'autre équipe était à 10. Oui. Mais c'est pas facile.
C'est pas ça.
Donc, les 4 buts, il faut les mettre. On parlait de la pression avant, de l'éventuel échec contre cette équipe qui perd tout le temps. Eh bien non, Brest a bien manœuvré. Et puis, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont, espérons-le, en train de revenir à leur niveau. au Nora. Et puis Mounier qui fait du bien parce qu'il me semble que ça fait 4 buts sur les 6 derniers matchs de Ligue 1.
Sur les 5 derniers même, je crois.
5 derniers, donc oui. c'est un bon ratio, alors que Slimani ne marque pas beaucoup.
Non, il en a mis un hier, mais il y avait un hors-jeu. Il a marqué en revanche la semaine précédente contre Lens en coupe, mais... C'est vrai qu'il peine à trouver son rendement et Mounier, par contre, lui revient en pleine bourre.
Ouais, donc si vous pouvez déjà vous trouver un semblant d'équipe type, ça peut être intéressant pour Eric Roy, même si derrière il manque Chardonnay. Voilà, il y a de quoi construire avant d'aller jouer dans 2 jours face à un Lyon brinque-ballant qui tanque de toutes parts, où il y a des 3 joueurs qui partent, 4 qui arrivent durant ces derniers jours du mercato. Et ouais, ça va être. Un joli test pour les Brestois. Beaucoup moins de pression du coup sur ce déplacement à Lyon pour Brest qui va enquiller aussi pas mal de clubs européens. Hein. Lille et Rennes, je crois, vont venir. Monaco aussi, il me semble.
Alors il y aura Lens déjà le week-end prochain aussi. En gros club, même s'ils ne sont pas européens. Mais ouais, ensuite ça va enchaîner aussi.
À Lens
non, à Francis Leblay. Ah, oui. Mais bon. C'était à Francis.
C'est quand même pas facile.
La semaine dernière, on a vu que c'était pas simple. En effet, même si c'était en coupe, l'efficacité donc des Brestois a parlé hier, et notamment celle de Jérémy Le Doiron. Un but et une passe décisive.
Juste après les réclames. Non, on écoute Le Doiron, on passera aux réclames alors juste après.
Ouais, c'est vrai que cette saison, ils me réussissent bien. Mais après, voilà, moi, je marque. C'est bien pour l'équipe. Donc, comme je l'ai dit, on a pris les 3 points, c'était super important. En plus, c'est mérité avec les supporters, ils sont toujours présents avec nous. Donc, c'est une belle victoire ce soir. Ouais, après, c'est comme ça, c'est l'attaquant aussi. Et parfois, il va avoir des occasions et louper, et comme aujourd'hui, des buts. Donc, voilà, comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'aider l'équipe au maximum et surtout de ramener les 3 points.
La suite des chaînes et du football, cette fois-ci, c'est sûr, après la pub.
Isabelle, infirmière, utilise les transports en commun la semaine et sa voiture le week-end. C'est pourquoi GMF fait baisser le prix de son assurance auto. Et en ce moment chez GMF, 15% de réduction la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 31 mars. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et du contrat Autopass en agence GMF.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Maman, c'est quoi un carport solaire?
Ah oui, bon alors, c'est un carport, un abri de voiture donc, dont le toit est recouvert de panneaux solaires pour faire des économies d'énergie.
Et nous, pourquoi on n'en a pas?
Mais pourquoi tu me demandes ça?
C'est papa qui m'a demandé.
Quoi? Patrick!
Tu sais ma chérie, les carports solaires Abri Sud sont très esthétiques. On voit même pas les panneaux solaires.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Vous voulez écouter une publicité qui a vraiment un intérêt?
Jusqu'au 15 mars chez Fortuneo, vous bénéficiez de 3% d'intérêt pendant 4 mois au lieu de 0,5% pour toute première ouverture d'un livret plus Fortuneo.
Et voilà, vous venez d'écouter une publicité qui a un vrai intérêt. Ça change, non? Fortuneo, j'aime ma banque.
Offre valable sur vos versements jusqu'à 100 000 euros, limité à un livret plus par personne majeure. Taux annuel brut contractuel de 0,5% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Voir conditions et fiscalité sur fortuneo.fr.
Ah, le petit déj à l'hôtel. Cuillère en argent et verre à pied en cristal. C'est un jus d'orange royal. Là, on comprend où on a mis le prix. Et sinon, personne ne s'est dit qu'un excellent café et des bons produits français, ça fait tout?
Si, nous. Chez B&B Hotel, un bon petit déjeuner, c'est aussi simple que ça. Réservez votre chambre au meilleur prix sur hotelbb.com.
J'adore la Jaguar Week Centre Accord. Cette année, je vais tout rafler. Tous les prix sont cassés. Déco, chaises, lampes, coussins. Il n'y a plus d'eau chaude.
Eh ben bouge, on y va.
On vous attend tout beau, tout propre pour la Jaguar Week Centre Accord. Tous les jours, 100 euros de déco à gagner. Rendez-vous vite en magasin.
Accord, bien plus que de la déco.
Voir conditions du jeu en magasin. Méné.
Alors pour vous, ce week-end, c'est ski, raquette, luche, fondue, bonhomme de neige, patinage, bain nordique et chasse au Yeti. D'accord, mais vous faites comment?
Bah, je conduis un Mini Countryman. Mini Countryman, édition suréquipée à partir de 395 euros par mois, sans aucun apport. Valable jusqu'au 31 mars 2023 sur Mini Countryman, LLD 36 mois. Conditions sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Méné. Chérie, la facture d'énergie a explosé. Ça peut plus durer. Appelle Effie Lafay.
Effie ! Effie !
Pas comme ça, mais t'es vraiment à côté de tes pompes.
C'est pour la pompe à chaleur.
Oui,
je suis Effie Lafay. Je vous installe une pompe à chaleur à partir de 999 euros. Aide déduite.
Alors,
merci Effi.
Pour l'installation de votre pompe à chaleur, rendez-vous sur effi.fr. Effi, E2FY.
Prix valable jusqu'au 31 mars 2023. Aide dans le cadre du dispositif des C2E et de ma prime Rénov. Offre Effi Sérénité sous réserve d'éligibilité et de faisabilité technique, voire conditions sur effi.fr.
Les déchaînés du football, 19h20.
Oui, 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 et le Stade Brestois donc large vainqueur de du SCO d'Angers, 4-0 hier, large vainqueur avec, on a dit, un homme, c'est Franck Honora, l'homme du match, très clairement, un but pour lui, deux passes décisives, et il est aussi à l'origine de l'autre but, hein, celui de Mounier, parce qu'il amène le centre. Alors la passe décisive ne sera pas comptabilisée.
Le plus beau but de l'histoire de Steve Mounier.
Ouais. Celui-là, on vous invite à aller le voir dans le commentaire, si vous avez entendu le résumé, Jackie le dit. On ne sait pas comment il l'a mise, mais il l'a mise.
Ah oui.
Il a marqué en effet un petit peu en deux temps, même si bon, en se retournant, il n'a pas réussi à retoucher le ballon. Steve Mounier, mais Franck Honora impliqué déjà sur 4 buts dans un même match, c'est presque une prouesse déjà.
Oui, parce que déjà c'est rare de voir Brest marquer 4 buts, même si c'est arrivé sous Dalloglio, et il me semble.
Ouais, même l'année dernière, ils en avaient mis 4 contre Lens et 5 contre 3.
Bah, surtout, ce qui était anormal, c'est de le voir sans stats dans cette saison. Je crois que c'était un but de passe avant ça.
Deux buts de passe.
Donc c'est pas du tout au niveau que l'on pouvait espérer pour Honora pour sa troisième saison. L'année dernière, il avait été le leader d'attaque de cette formation pendant des mois et des mois. Et là, c'est vrai qu'on pouvait penser que son transfert avorté cet été pouvait un peu lui peser dans la tête. C'était sans doute le cas, peut-être le cas.
On l'entendra tout à l'heure.
Mais là, voilà, c'est... Parfois, vous savez, quand vous êtes un joueur ou une équipe, vous avez besoin d'un match déclic. Bah, c'est peut-être le déclic d'Honora qui avait fait une passe décisive contre Lens.
Contre Lens en Coupe de France, ouais. Mais c'est vrai qu'en Coupe, bon, les stats sont pas forcément comptabilisées.
Mais quand vous êtes joueur, ça compte. Mais en ça plus, compte, c'était contre compte. Une Ligue 1, contre Lens, ça compte dans la tête. Donc espérons qu'il soit lancé.
Honora décisif 4 fois. On écoute la réaction de l'homme du match.
Non, ça m'était jamais arrivé. Donc c'est bien, mais ça me pousse à faire encore plus, à aller chercher encore plus, parce que voilà, je sens que j'ai les capacités, le potentiel pour encore mieux faire. Donc voilà, toujours dans l'envie de progresser et d'aller de l'avant.
Oui, aller de l'avant pour Franck Honora. On parlait de les mois où ça allait moins bien. Il y avait eu en effet ce départ avorté à Mönchengladbach dans le club allemand de première division allemande en Bundesliga. Était-ce la raison de ces semaines et ces mois difficiles de Franck Honora? Oui, mais pas seulement, écoutez-le.
C'est un tout, je pense qu'il y a le non-départ aussi qui a fait que j'étais un peu moins bien et que c'était dur dans ma tête. Mais bon, je pense que l'équipe aussi était moins bien, parce qu'on n'a pas eu énormément de victoires dans la première partie de tableau. Et voilà, ça a été compliqué, le changement de coach aussi. Je pense que tout ce qui s'est passé en interne ont fait qu'il y a eu ces passages qui ont été moins bien, mais voilà, quand on rentre sur le terrain, on a toujours envie d'être bon. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui fait exprès d'être nul ou de louper une passe ou de louper un contrôle sur le terrain. On a tous envie d'être bon, de marquer, de prendre du plaisir. Donc on essaye de le faire tous ensemble, et aujourd'hui ça a payé, mais bon, c'est que le début d'un long chemin.
Début d'un long chemin des Brestois, et ressorti de la zone rouge pour le SB29 hier, parce que cette victoire conjuguée à la défaite de Strasbourg à domicile face à Toulouse, alors que Strasbourg menait 1-0, eh bien permet à Brest de sortir de la zone rouge et de compter quand même 3 points d'avance.
Ouais, c'est confortable déjà.
C'est l'équivalent d'un match, quoi. Jusque-là, c'était avec un point de temps en temps ou deux. Là, c'est 3 matchs. Et une différence de but égale. 3 points, pardon. Et une différence de but égale à celle des Alsaciens. 3 points sur Strasbourg, 3 points sur Ajaccio, 5 sur Auxerre et 10 sur Angers, donc l'adversaire du week-end qui est nettement distancé. Les Brestois qui reviennent même à 2 points de Montpellier, enfin qui restent à 2 points de Montpellier, mais qui reviennent aussi à une longueur des Troyens. Donc voilà, ça permet vraiment de...
Ouais, c'est une victoire vraiment qui met à l'aise cette équipe brestoise, 3 points d'avance sur le premier relégable.
Et Jackie disait même hier après le match, en regardant les résultats, que... Il y a la victoire de Brest évidemment qui est importante, mais il y a aussi tous les autres résultats parce que tout a été dans le sens de Brest ce week-end. Tout le monde a perdu, sauf Troyes qui a pris un point, mais en tout cas personne n'a gagné. Et donc Brest a vraiment pris des points sur tout le monde, sur tous ses concurrents ce week-end, avec en plus une différence de but qui a été nettement améliorée.
Ouais, donc 4 buts, 0 encaissé, c'est appréciable.
Un très très bon week-end pour le Stade Brestois. Il faudra en effet confirmer maintenant à Lyon qui a battu Ajaccio, un des clubs de la zone rouge, hier 2-0. Lyon qui est dans la première partie de tableau, qui s'est un petit peu non pas rapproché mais qui a gardé du coup ses distances avec Lorient, Pierre, puisque au classement on s'aperçoit que les Lyonnais dans la première partie de tableau sont toujours à 7 de Lorient.
Non mais vous parlez de bonne opération pour Brest, j'ai envie de vous dire aussi très bonne opération pour Lorient, qui reprend 3 points à Rennes, qui en reprend 2 à Monaco, 3 à Lille.
Oui.
Donc c'est, on en va en parler tout de suite d'ailleurs de nos amis Merlus, mais c'est un week-end déjà 3 sur 3, on le disait, avec 3 victoires de nos équipes et surtout...
Mais dans un contexte en plus favorable aux 3 équipes.
Ouais, ouais, exactement.
Les résultats ont tous plaidé en faveur des clubs que nous...
Et même Paris a fait match nul, donc Lorient
a pris 2 points sur Paris.
Sur Lens, sur Marseille, ils ont repris des points sur la seule équipe du top 7 qui a gagné.
Du top même top 8. 8, parce que Clermont a aussi été accroché derrière, donc c'est un très bon week-end. On va donc basculer en effet sur le Morbihan et sur le FC Lorient avec 7 victoires, c'était le premier match de la journée, de cette 20e journée, vendredi, au Moustoir. 2-1 dans le derby face au Stade Rennais. Lorient qui a gagné le match aller et le match retour. On écoute tout de suite le résumé de ce derby.
Désiré Doué est au 35 mètres. Désiré Doué qui perce dans l'axe, qui se met sur son pied droit. Il va pouvoir frapper Désiré Doué à côté du but. C'était une belle occasion pour les Rennais. En tout cas, il avait fait un joli festival, Désiré Doué. Il va le tirer dans la boîte. Visiblement, le numéro 10 du FC Lorient avec son pied droit. Deuxième poteau. Et le but de Damantas Tartalbi. À la 13e minute, le derby est lancé. Et le Moustoir exulte 1-0 pour le football club de Lorient. Avec le premier but cette saison de Damantas Tartalbi. Sur cette passe décisive, ce délice de corner d'Enzo Lefebvre. Les Merlus prennent l'avantage face au 5e de Ligue 1, face au Stade Rennais. 1-0 pour les Togos.
Et ben ça alors.
Ballon pour les Rennais à droite avec Bourigeaud pour le Bromayeur. Le Bromayeur qui lève la tête, qui va centrer dans la surface. Ce ballon récupéré par Gouiri. Attention, il y a du monde. Avec peut-être l'égalisation. Non ! Quel loupé de Christopher Wu qui était dans les 6 mètres et qui avait le but face à lui, qui a envoyé un ballon qui est parti nettement au-dessus. Attention, ce ballon dans la surface, pas de faute, Kaloulou encore, la frappe, le ballon sauvé finalement, et le ballon surtout capté dans les 6 mètres par Mandanda, alors qu'on réclamait là aussi une faute dans la surface, il n'en est rien finalement. Oh, très bon ballon de Ponceau pour le Brice côté gauche dans la surface, la frappe de le Brice, le deuxième but l'orientait, il est signé. Évidemment que la famille Le Brice devait mettre son empreinte sur ce derby. Théo, dont le papa et dont le neveu ont joué à Rennes, devait forcément faire quelque chose dans ce match. Voilà qui est fait avec ce deuxième but du FC Lorient. 2 buts d'avance pour les Merlus dans ce derby. 2-0 pour le football club de Lorient. Que cette frappe est contrée derrière l'accélération en contre-attaque de Ponceau pour Koné en face à face. Balle de 3-0. Ibrahima Koné qui va buter sur Mandanda. L'occasion de 3-0 avec ce face à face. C'est Mandanda qui vient sauver les siens. Marie Traoré, la contre-attaque qui est partie, attention avec Tay qui a trouvé Souleymana, l'accélération de Souleymana, il a une balle de 2-1, Souleymana face à Manoné, le gardien lorientais qui sort le face à face. C'est imposé malgré tout du côté rennais, attention à ce centre, et la but du Stade Rennais, Fabien Tay Flavien Tay qui réduit l'écart à 2 buts à 1 à la 73e. Il a fallu une combinaison dans la surface de réparation et un centre en retrait pour que Flavien Tay réduise l'écart. Les Merlus ne comptent plus qu'un but d'avance, ça fait 2 buts à 1. Peut-être 2, ouais ce serait bien, même 1 ce serait parfait. Non, il y aura au moins 2. La tête, la quinquette et le ballon qui rebondit sur la barre. Manonnet qui vient sauver les siens, l'occasion de 2 buts partout dans ce match à l'entrée du temps additionnel. C'est terminé. Première victoire de la saison, ou en tout cas de l'année 2023.
Ouais, de 2023.
Remoustoir pour les Merlus.
Ça a été chaud pour les Merlus en fin de match, oui. Mais les 3 points sont dans la poche pour Lorient.
Oui, les 3 points sont dans la poche en effet, et les Lorientais qui, mine de rien, quand on prend l'enchaînement de matchs, et on en avait parlé, Monaco, Marseille, Rennes, on allait savoir avec cette série si Lorient pouvait rester dans ce haut de tableau ou non. Ah, on a quand même plutôt la réponse qui est plutôt oui, parce qu'il y a nul à domicile contre Monaco, victoire à domicile contre Rennes, et la seule défaite c'est à Marseille. C'est quand même plutôt pas mal à l'issue de cette sortie de 3 matchs. 4 points sur 9 face au club du top 5, c'est pas si mal.
Oui, et puis pour voir c'est plus loin, on peut regarder les confrontations directes entre les équipes qui se chatouillent pour le podium. C'est le journal L'Équipe qui a publié ça aujourd'hui. Parmi les 7 clubs donc qui se bagarrent, on a Lens qui a un excellent bilan dans les confrontations directes. 5 victoires et une défaite, 2,5 points par match. Ouais. En dessous, on a le PSG, 1,67, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Marseille, 1,57. Et juste derrière, Lorient, 1,43 points, bilan équilibré contre les autres équipes de tête, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et derrière il y a Lille et puis Rennes très loin, 0,86, Monaco 0,57, Monaco qui est la seule équipe à ne pas avoir gagné contre une équipe du top 7. Donc c'est quelque chose qui parle aussi en fait.
Ouais,
on
c'est
est
ça.
Au mois de janvier, on peut plus parler de tube de l'été, plus, de tube non, de non. L'automne, tube de l'hiver, non, Lorient est à sa place. La chance qu'il y a aussi pour cette équipe de Lorient, c'est ce qu'on disait en tout début de saison, pour que Lorient dure en haut de tableau, il fallait que quelques gros soient un petit peu à la ramasse. C'est le cas de Lyon et de Nice, qui sont très loin pour l'instant de leurs ambitions. Et tant mieux, Lorient arrive à continuer. Et puis, ils ont aussi inversé un peu la spirale qui était négative sur les dernières semaines.
Exactement, parce que si on prend les 4 derniers matchs de championnat, il y a ces 2 victoires, un nul et une seule défaite, celle donc à Marseille, 7 points sur 12. On retrouve, on va dire, des standards plus conformes à cette place-là si Lorient veut rester assez haut dans ce championnat de Ligue 1. L'analyse de Montassar Talbi, le premier buteur de ce derby, écoutez-le.
Ouais, c'est vrai que c'est une belle soirée, on peut dire. Tout d'abord de gagner un derby pour commencer la deuxième partie de saison, on savait que c'était important pour nous, surtout au Moustoir. Ça faisait un moment on n'avait pas gagné à domicile, du coup on avait à cœur de réaliser un beau match et de ramener cette victoire et les 3 points. Et bah, justement, comme on l'a dit, on a réalisé un gros match, surtout une belle première mi-temps. On s'est créé beaucoup d'occasions, on en a même raté. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu plus dur, mais on a montré une belle solidarité, on a bien défendu. Et à la fin, on ressort avec les 3 points. Et individuellement, je suis très content d'avoir marqué mon premier but. Ça faisait un moment que je disais que je devais le marqué et ça tombe bien dans un derby breton à domicile, je pouvais pas demander plus.
Oui, premier but de Montassar Talbi en première mi-temps, la première période qui a été vraiment parfaite de la part de Lorient à 95%. Elle aurait été tout à fait vraiment parfaite s'il y avait eu ce 3-0, ce but du 3-0 sur l'occasion de Koné qui aurait vraiment tué le match. Mais Lorient, bon, qui au départ a laissé un tout petit peu le ballon à Rennes sur les 6-7 premières minutes, l'a finalement pris hein, assez rapidement, s'est créé quelques situations, a marqué ce but dès la 13e minute, et puis derrière a fermé tous les espaces. Régis Lebris l'expliquait, on l'entendra aussi tout à l'heure, mais ils ont fermé l'axe aux Rennais pour les repousser sur les côtés, mais ils ont tellement bien fermé les côtés aussi avec Diarra qui venait aider son latéral Kaloulou à droite et Lebris qui en faisait de même avec Le Goff à gauche, que Rennes ne trouvait aucune solution dans ce jeu et dans cette défense lorientaise. Et à cela se sont ajoutées les contre-attaques, dont celle qui a permis à Théo Lebris de marquer le but du break. La première mi-temps aurait été absolument parfaite si Koné avait donc marqué ce but du 3-0. Ça n'a pas été le cas, mais quand même le plan a parfaitement fonctionné pour Régis Lebris. Écoutez donc l'entraîneur du FC Lorient.
On a senti en fait à un moment, au bout de 15 minutes, qui commençait à nous lâcher des ballons qui étaient qu'il ne lâchait pas au début. Et donc, bon, c'est aussi la force de ce bloc défensif qui demande pour l'attaque adverse d'être très juste. Et les petites pertes de concentration et puis de passes manquées sont tout de suite sanctionnées. Et donc, on a senti à un moment, aux alentours de la 15e, 20e minute, qu'ils commençaient à nous lâcher des ballons, là où ils n'avaient pas du tout lâché au début. Et que ça, c'était les opportunités qu'on attendait.
Oui, les opportunités se sont présentées. Et d'ailleurs, ils ne s'attendaient pas forcément, il le disait au début, hein, à avoir autant de situations. Notre ami Régis Lebris, face à une équipe rennaise qui avait un visage un peu particulier à 3 derrière. Mais vous le disiez, Pierre, en regardant les stats,
oui,
pas l'impression que Lorient était tant que ça au-dessus pourtant.
On en parlait hors antenne pendant la réaction de Régis Lebris. C'est vrai que quand on n'a pas assisté au match et qu'on regarde bêtement et froidement les stats de la première période, bah elles sont plutôt en faveur de Rennes. 63% de possession de balle, 7 tirs à 4. Mais là où Lorient était plus précis, c'est les tirs cadrés. 2 sur 7 pour Rennes et 4 sur 4 pour les Lorientais. Donc comme quoi, voilà, les statistiques, ça veut bien dire qu'il faut s'en servir pour illustrer le ressenti qu'on a.
Oui.
Mais là, faut pas les faire parler sur cette première période parce qu'elles sont très loin de la réalité. Et la réaction la plus forte sur cette première période, c'est celle de Genesio après le match, où il se dit: je me suis clairement trompé, le schéma n'était pas le bon, les joueurs étaient complètement à côté de la plaque. Ils ont rectifié le tir en seconde période, mais c'était
et trois
tard.
Changements dès la mi-temps, hein, ouais, pour l'entraîneur rennais. Ils ont abandonné la défense à 3, sont revenus sur un 4-4-2 en fin de compte à la mi-temps, avec les entrées de Souleymana, de Tay qui a marqué, et de Santa Maria qui a fait beaucoup de bien aussi à la récupération. Alors c'était même plus un 4-4-2, 4-3-3 en fonction des situations, mais ça a vraiment bien fonctionné pour le Stade Rennais avec ce visage là en tout cas. C'était plus productif, mais finalement Lorient n'a pas concédé grand chose malgré la souffrance quand même pendant 45 minutes.
Oui, forcément, enfin, ça perturbe. En tout cas, ça, eux, ils apportent encore un peu plus de monde sur les côtés, donc ils prennent un peu plus de risques parce qu'ils enlèvent un défenseur, donc ils peuvent un peu moins gérer les projections. Mais comme à ce moment-là, nous, on a un peu moins d'énergie pour leur faire mal, donc finalement le risque est payant pour eux. Il aurait fallu que justement on puisse les sanctionner avec les deux latéraux hauts et les deux défenseurs centraux uniquement pour gérer les transitions, mais on n'a pas su le faire. Donc du coup, ça a fait un attaque-défense, hein, on ne peut pas dire autre chose. Mais dans cette situation-là, moi je sais qu'on a beaucoup de qualité pour gérer, quoi. C'est-à-dire que c'est des situations qu'on a beaucoup travaillé, où les joueurs, même s'ils sont proches de leur but, se sentent en sécurité. Bon, ils savent, il y a des choses à faire, bien sûr, mais ils ne sont pas en difficulté dans ces moments-là. Donc ça donne un espace, une sorte de souffrance globale, mais sans qu'il y ait une véritable dangerosité à l'arrivée.
Et là, les statistiques viennent aussi corroborer, hein, ce que dit le coach lorientais. En deuxième mi-temps, Lorient, c'est zéro tir. Hein. Pas une seule situation.
J'espère qu'ils n'attaquaient pas de votre côté. Si, en
si,
plus.
Ah si, oui, donc, en plus. Tout était à l'opposé pour la deuxième mi-temps. Et puis, c'est vrai que, bon, pas énormément de dangerosité, le disait Régis Lebris, parce qu'il n'y a que 4 tirs cadrés, finalement, de Rennes en deuxième période, dont le but. Mais il y avait cette menace constante qui rodait le ballon, qui revenait incessamment. Oui, c'est ça.
Inlassablement. Oui.
Sur la surface de réparation de Lorient. Pas énormément d'arrêts, hein, pour Manonnet à réaliser, mais cette pression constante là et forcément les Merlus qui n'arrivaient plus à se relancer, à se dégager. Il y a une stat aussi qui est sortie, c'est 42 centres à 4 pour les Rennais dans ce match. Mais voilà, c'est une équipe de Lorient qui a réussi finalement à attirer Rennes dans son piège, surtout avec la première mi-temps où, comme le disait Genesio, il s'est planté sur son schéma tactique. Ça avait marché contre Paris, pas tellement contre Marseille, et beaucoup moins bien encore contre Lorient avec cette défaite de buts à 1.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas la première fois où on dit que Lorient gagne, mais c'est arc-bouté devant sa surface, devant son but. Et si ça arrive 3, 4, 5 fois, c'est que c'est pas du hasard.
Et
en
non,
fait.
C'est qu'ils savent faire dans cette manière-là.
Après, il y a un peu de réussite parfois, de la maladresse,
ouais,
qu'il y a eu
sûr.
Barre, poteau, etc. De toute façon, vous avez toujours une barre transversale par match, on dit Gaëtan.
Minimum, oui.
Non, mais c'est pas du hasard. Le classement n'est plus du hasard. Combien de temps ça va durer? Quel sera l'impact du mercato? Parce qu'il faudra aussi en parler du côté de Lorient.
Oui.
Parce que on parlait de Lyon avec 3 arrivées et 4 départs par jour. Lorient, c'est un peu en train de devenir ça aussi.
La Mofi, hein, visiblement, dans les prochaines heures, là, va officiellement signer à Nice. Il passait sa visite médicale aujourd'hui. Mais Dieng est arrivé devant.
Moi, je suis triste de le perdre. C'était mon chouchou.
Ah, moi, j'aimais bien.
Ah, oui.
Et Medieng est arrivé, Fèvre est arrivé, il devrait y avoir encore une, deux autres arrivées. On parle du gardien Paul Hörsbeck par exemple, qui pourrait être prêté par Lyon.
Ça.
Exactement, en doublure, hein, de Manonnet. Manonnet devrait rester numéro 1 dans cette hiérarchie. Mais on parle aussi de Jean-Victor Makengo est arrivé aussi au milieu, l'ancien niçois. Il pourrait y avoir Eman Kari, un jeune parisien, plus un ailier qui arrive de Norvège.
Il va faire toutes les étiquettes.
Ça fait peut-être beaucoup d'ailleurs comme arrivé. On aura le temps d'y revenir, et notamment après la pub.
Vous nous êtes fidèles chaque jour pour la musique, l'info, la proximité. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+. En voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Vous pouvez déjà écouter Radio Bonheur sur votre récepteur DAB à Nantes, Pornic, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Angoulême, La Rochelle, Saintes, Poitiers, Niort, Châtellerault, Rouen et Paris-Île-de-France. Radio Bonheur. Les déchaînés du football, 19h41, on continue de parler alors j'allais dire l'exploit, il ne faut pas exagérer non plus, mais de cette belle performance des Merlus contre Rennes quand même, c'est pas rien.
Oui, et après Régis Lebris, on va entendre Théo Lebris, auteur du deuxième but, l'orientait, lui
qui s'est montré. Son neveu, son...
Oui, c'est ça, dans l'euphorie, le commentaire du but, j'ai dit que c'est son neveu qui avait joué à Rennes, c'est évidemment son oncle à Théo, puisque c'est Régis qui a joué à Rennes. Mais voilà, la famille Lebris a marqué de son empreinte hein, ce derby, et Théo, avec ce deuxième but, Théo Lebris, efficace, ce qui lui manquait ces derniers temps, écoutez-le.
Ouais, c'est vrai que c'est Julien qui me sert en profondeur. Et puis c'est vrai que j'ai une action avant, donc voilà, peut-être je me précipite un peu aussi. Donc là je prends bien mon temps, faire le bon geste et puis m'appliquer aussi sur la frappe pied gauche. Et puis fort premier poteau et ça passe. Donc c'est un bon moment. Bah, je pense que c'est surtout le sang-froid en fait, le calme. Parce que j'arrive souvent devant les buts un peu avec beaucoup de précipitation. Donc il faut rester calme et puis après faire le bon geste et tout. Et puis comme ça qu'il faut travailler je pense.
Oui, Théo Lebris pour être encore plus décisif face au but. On disait que c'était la belle histoire aussi du week-end parce que il est originaire de l'Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes. Son père a joué à Rennes, son oncle donc a aussi joué à Rennes. Et Théo Lebris, lui, ben voilà, avait cette petite saveur particulière. On écoute à nouveau le numéro 37 du FCL.
Non, c'est vrai que je viens de là-bas de base. Mais après, bon, c'est pas. Je sais que ma famille aussi supporte beaucoup Rennes quand même. Mais bon, après, personnellement, je suis quand même assez détaché de ça. Et puis, pour moi, c'est un match aussi normal. Donc, c'est une petite saveur parce que je viens de là-bas. Mais au final, ça va. Ça reste normal.
Ouais, une saveur particulière, mais modérée quand même. Hein. On l'entend dans la voix de Théo Lebris, le deuxième buteur de ce derby. Victoire 2-1. Donc, un Montassart Albi, Théo Lebris pour les buts de l'Orientais et Flavientais en seconde période pour le but du Stade Rennais.
Oui, la prochaine journée, c'est déjà mercredi, hein, 19h. Reims-Lorient, deux équipes en grande forme, puisque Reims reste sur 12 matchs en défaite.
Oui, depuis mi-septembre qu'ils n'ont plus perdu les Rémois.
Ils ont accroché le PSG hier, un but partout au Parc des Princes. Ils ont égalisé à la 96e minute de cette rencontre. Et puis à 21h, Lyon-Brest. Lyon, équipe très très irrégulière, hein, qui a fait revenir beaucoup d'anciens cette saison. Lacazette, Tolisso, Lovren, sans grand succès pour l'instant. Ils ont gagné hier à Ajaccio. Mais à voir, ils sont tellement irréguliers qu'on n'est pas à l'abri d'une belle performance brestoise mercredi. On bascule tout de suite sur le foot amateur dans ce magazine, vous en avez l'habitude. On termine avant 20h en parlant des clubs de National 2, de National 3, voire aussi de National.
Exactement.
Il n'y a pas eu de match ce week-end parce que c'était une journée de repos en National, en N2 notamment. On va s'intéresser justement à ce championnat de 4e division, à la N2, Gaëtan, et notamment du côté d'un...
Des matchs en retard en National, hein, je crois.
Oui, il y avait quelques matchs en retard, mais qui ne concernaient pas nos équipes. Alors,
pas Concarneau ni Saint-Brieuc.
Non, voilà, elles ne jouaient pas. Par contre, les résultats voilà, ont été plutôt à l'avantage de nos équipes, surtout de Concarneau, puisque les équipes du dessus qui jouaient n'ont pas gagné. Donc ça, c'est une bonne chose pour Concarneau, mais pas de championnat pour ces équipes.
Et en National 2, donc, on s'intéresse d'abord à Vannes, avant d'évoquer Saint-Malo. Ça ne va pas très fort pour l'instant à Vannes, avant-dernier du classement, avec 10 points. Vannes qui s'est séparé cette semaine de son entraîneur, Gaëtan.
Oui, Pierre Talmont, qui n'est plus l'entraîneur du VOC depuis quelques jours. Et on a avec nous, pour revenir sur l'actualité du club Vannetais, le président Daniel Borot. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Alors cette saison de Vannes, c'est vrai, est contrastée, difficile jusqu'à présent déjà. Si on fait un petit peu le bilan actuellement en championnat, puis il y a aussi eu le parcours en Coupe de France. Est-ce que le bilan est vraiment négatif en tout point, ou comment on le dresse finalement, ce bilan de la première partie de saison globale ?
Mais non, le bilan est négatif sur le plan comptable, puisque effectivement nous sommes avant-dernier avec 10 points sur 15 matchs, donc il est évident que c'est pas un bon bilan sportif. Néanmoins, de l'autre côté, bah, on sait qu'on n'avait pas un jeu qui était si mauvais que ça. Je pense qu'il y avait effectivement d'autres possibilités, comme toujours dans ces cas-là. Les gens, les mal classés, la chance tourne rarement du bon côté. Donc effectivement, bah, malgré tout, le résultat, il est que nous n'avons que 10 points.
Ouais, le compteur a du mal à tourner. Du coup, il y a eu cette décision de se séparer de Pierre Talmont. Qu'est-ce qui a motivé à ce choix finalement ? Est-ce que ce sont les résultats uniquement ? Est-ce que c'est un discours peut-être qui ne passait plus ? Qu'est-ce qui vous a amené finalement à cette décision ?
Le but, effectivement, c'est de faire un électrochoc au niveau du groupe. La mission est confiée à Hervé Brouard et Sullivan Copal. On va tenter effectivement d'influer à cette équipe. Peut-être des propos différents parfois dans un vestiaire, c'est utile. On a renforcé aussi l'équipe suite à différents départs qui ont été compensés, je l'espère, par des gens qui vont nous amener un plus, et surtout des gens qui ont une envie totale de sauver que le club ne soit pas relégué à la fin de saison.
Alors, est-ce que Hervé Brouard et Sullivan Copal justement sont amenés à rester jusqu'à la fin de la saison, ou est-ce un simple intérim ?
Sans problème. Ils sont là jusqu'à la fin de saison, et on fera le bilan à la fin de saison. Il n'y a aucun doute sur votre question et sur ma réponse.
Voilà, on a la réponse justement claire, nette et précise. Le prochain match, c'est contre Châteaubriant en championnat, hein, le week-end prochain.
Oui, tout à fait, à 18h30 à la Rabine.
Voilà, en National 2. Là, l'idée tout de suite, c'est vraiment d'avoir une opération commando finalement pour aller chercher ce maintien en N2.
Le terme commando est amusant, puisque Hervé Brouard est un ancien militaire. Donc,
ah bah oui.
Vous avez tout à fait, effectivement, il faut que chaque match soit un match de coupe, quelque part. Hein. Il est clair qu'à aujourd'hui, même si on est mal classé, il n'y a pas non plus un gouffre de points avec le premier non relégable. Donc aujourd'hui, on arrive à, je pense, dans nos petits calculs, à gagner 7 matchs sur 14, eh bien, je pense qu'on sera effectivement sauvé de la relégation.
Alors, en effet, c'est ce qu'on souhaite au VOC dans cette saison, dans cette phase retour. Est-ce que, malgré tout, quand on est plongé dans une situation comme ça, est-ce qu'on envisage finalement deux tableaux, l'un qui se passerait très bien et on se sauve en N2, et puis l'autre où il y aurait cette relégation en N3? Est-ce que c'est quelque chose déjà qu'on prépare, ou vraiment pas du tout?
Non. On ne prépare pas du tout d'être rétrogradé en N3, parce que nous sommes convaincus que, d'une part, avec les arrivants, parce qu'il y a quand même trois recrues cette semaine, d'autre part, avec cet électrochoc qu'on essaye de produire, on est convaincus qu'il y a moyen de sauver le VOC en N2 cette année, qui était une année de transition, suite au mouvement de la présidence qui se sont passés au mois de juin. Donc c'était cette année de transition. L'année de transition est compliquée sur le plan sportif, et par contre il y a la conviction absolue que nous allons nous sauver à la fin de saison.
Ouais, pour enchaîner bien sûr en National 2, hein, le Vannes Olympique Club actuellement, on le disait avant-dernier, on imagine évidemment que les confrontations directes, qui n'ont pas forcément été une réussite sur la phase aller, auront leur importance capitale sur la phase retour.
Tout à fait exact, d'autant plus que sur la phase retour, compte tenu des travaux à la Rabine, sur les 6 premiers matchs, on avait déjà joué 5 matchs à l'extérieur. Donc on n'a pas forcément été très très performant à la Rabine, mais c'est toujours déjà un petit peu plus compliqué quand la saison, sur les 6 premiers matchs, on avait gagné à Caen. mais effectivement, on n'avait pas un plan comptable qui était formidable. Donc là, des matchs retour, on a un peu moins de déplacements compte tenu du calendrier. Et je suis absolument vraiment confiant. Hein. C'est pas une motivation plein d'angélisme, loin de là. On est vraiment confiant, je vous répète, avec les trois recrues de cette semaine, hein, un par ligne, un défenseur central, un défenseur, un milieu défensif et un attaquant, des garçons de qualité, qui sont prêts, pas non plus des garçons qui n'ont pas joué depuis 6 mois ou qui reviennent de blessure ou qui ont besoin d'un temps d'adaptation. C'est des garçons qui sont efficaces dès aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont tous à l'entraînement aujourd'hui. Et on voit bien que c'est pas du tout des garçons qui ne sont pas prêts à jouer dès samedi prochain.
Bien, ben en tout cas, voilà, c'est ce qu'on espère hein, pour le VOC, une phase retour avec davantage de points et ce maintien, évidemment, à l'issue de l'exercice. Merci beaucoup, Daniel Borot, d'avoir répondu à nos questions ce soir.
Merci à vous.
Bonne soirée. À bientôt, bonsoir.
Merci,
bonsoir.
Au revoir.
Une page de pub, un court écran publicitaire et nous reparlerons des clubs amateurs dans un instant.
En janvier, partout en France, on entend ça.
Santé. Santé.
Et surtout la bonne santé.
À ta santé.
Santé.
Et à chaque fois, c'est accompagné de ces petits bruits.
Santé.
Et souvent, quand on trinque, c'est avec de l'alcool. Pourtant, la bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool. Car l'alcool multiplie les risques de cancer, d'AVC hémorragique et de troubles du rythme cardiaque. Faites le point sur alcoolinfoservice.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé, de la Prévention et de Santé publique France.
Aldi. Dans la vie, on aimerait tous avoir ce pote qui nous dit
« Parfait pour ta raclette !»
Car les pommes de terre Origine France arrivent dès demain chez Aldi à 1,99€ le filet de 2,5 kg, soit 80 centimes le kilo. Oui, ce « Parfait pour ta raclette !» qui ferait d'elle les stars de votre soirée. C'est le fromage qui va être jaloux. Vous voulez en profiter? Venez chez Aldi vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Variété France Line à chair ferme. Offre valable du mardi 31 janvier au samedi 4 février. Info sur aldi.fr.
Renault. En partant au travail, en allant faire vos courses, en déposant vos enfants, en rentrant du sport, elle est toujours là. Cette rayure sur votre portière, elle vous obsède. Avec Refresh par Renault Care Service, retrouvez votre voiture remise en état et votre sérénité. Nos forfaits Refresh avec réparation carrosserie, vidange et nettoyage, dès 599€. Service effectué dans notre Refactory de Flins et dans le réseau Renault. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Réservé aux particuliers dans le réseau Renault participant, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Quand je serai dans ma belle pergola, la lumière jaillira de haut en bas.
C'est chouette ma chérie, c'est de toi?
Bah oui, que veux-tu? Moi quand je regarde les catalogues de pergola bioclimatique Abri Sud, ça m'inspire.
C'est bon, t'as gagné, j'appelle Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Merci mon chéri.
Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicules d'occasion électriques, hybrides, essence ou diesel, reconditionnés et certifiés. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1€ de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Plus que quelques jours pour vivre toute la magie du rendez-vous Air France.
Wow. Hey, taxi.
Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, New York, à partir de 429€ au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France.
Acheté jusqu'au 2 février, tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 6 mars au 9 avril 2023.
Les déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur, 19h54.
Oui, et on continue de parler de National 2. On parlait de Vannes tout à l'heure qui était en bas du classement. On va regarder un peu plus vers le haut de ce classement de National 2 avec Saint-Malo qui a fait la belle opération de la semaine puisque l'USSM jouait un match en retard contre le Grandville de Sylvain Didot mercredi dernier. Victoire 3-1 des Malouins dans cette rencontre, ce qui leur permet de prendre un peu plus d'air sur la zone rouge. Nous avons d'ailleurs un des acteurs de Saint-Malo avec nous, c'est le latéral gauche, Janine Bérénice. Bonsoir Janine.
Bonsoir.
Alors, racontez-nous votre semaine, parce que c'est pas commun pour vous de ne pas jouer un week-end, mais de jouer plutôt le mercredi en N2. Est-ce que c'était facile de se mobiliser pour cette rencontre qui, rappelons-le, avait été reportée deux fois, une fois par la Coupe de France, l'autre fois par les conditions climatiques?
Oui, donc on savait que c'était un match très important, car c'était un match en retard et on a tout mis de notre côté pour pouvoir le remporter. Donc on s'est entraîné normalement parce qu'on a joué donc le week-end d'avant, on avait joué contre Beauvais où on a fait nul. Et Granville le mercredi et voilà, c'est bien passé pour nous, on a pris les 3 points quoi.
Avec un but d'Iva et un doublé de Persico pour cette rencontre contre Granville. Vous êtes 5e du classement avec 24 points. Bon, on ne peut pas parler de montée hein, parce que Rouen est beaucoup trop loin, 15 points d'avance, c'est ouais. Rouen et Colombes hein, qui vont se jouer les accessites. Mais dans cette saison un peu effrayante avec les 5 voire 6 descentes, comptez aujourd'hui 9 points d'avance sur la zone rouge. On imagine que ça a été le soulagement après ce match en retard contre Granville, parce que vous aviez rarement réussi cette saison à basculer un petit peu définitivement dans le haut de tableau. Là, ça y ressemble quand même.
C'est ça. On a eu du mal. On a eu des matchs pour le faire. Après, voilà, on n'a pas su saisir notre chance. Donc aujourd'hui, cette victoire contre Granville nous fait un bien fou. Maintenant, faut réitérer, essayer de. Donc là, on va aller chercher Stade Rennais ce week-end pour essayer de prendre le plus de points possible et laisser la zone rouge derrière nous, quoi.
Quelle était l'ambiance à la fin du match dans le vestiaire? Est-ce que vous avez poussé un ouf de soulagement? Comment ça s'est passé?
On a fait le cri de guerre et en fait, nous les joueurs, on regarde pas trop le classement parce que on sait qu'on est c'est très très serré et que faut gagner tous les matchs. Clairement, faut gagner tous les matchs et après on fera les calculs, mais oui, c'est un soulagement pour nous de gagner ce match et de rester dans les 5 premiers.
Vous, Janine, vous êtes arrivée cet été à Saint-Malo après une année à Vannes. D'ailleurs, on parlait de Vannes tout à l'heure dans l'émission. On se rappelle que l'année dernière, ça avait été une saison très très compliquée pour Saint-Malo, qui avait été quasiment relégable toute la saison avant de s'en sortir in extremis avec l'arrivée de Gwen Corbin. Comment le coach vous a mobilisé, vous les meilleurs joueurs, pour surfer sur cette dynamique et ne pas revivre la saison presque cauchemardesque de l'an passé? Par quoi ça s'est matérialisé, cette transformation?
Déjà, il y a eu beaucoup de changements dans le club avec le nombre d'arrivées de joueurs et de départs. Donc il a renforcé l'équipe. Et puis après, voilà, nous on s'est dit voilà, la saison dernière, c'était assez compliqué. On va jouer le maintien. Mais avec l'équipe qu'on avait sur le papier, on pouvait pas se permettre de jouer que le maintien. Donc le coach il était conscient de tout ça, du coup on a mis quelque chose en place pour pouvoir jouer et être aujourd'hui 5e au classement.
Vous étiez même sur le podium hein, durant la trêve hivernale. C'est l'objectif maintenant assumé de cette équipe. Là, vous êtes dans un paquet de clubs. Il y a 6 clubs qui se tiennent en 4 points. Vous êtes à 3 longueurs de Poissy. C'est l'objectif maintenant, déjà assurer le maintien évidemment, mais essayer d'accrocher le podium aussi.
Oui, ça peut être aussi un objectif, mais il faut pas oublier que en fait, quand on regarde un peu les matchs, il y a toutes les équipes qui peuvent battre tout le monde. Nous, on a fait beaucoup de nuls, des nuls où on devait gagner, comme Stade Rennais en début de saison.
Beauvais récemment aussi, vous meniez deux fois.
Beauvais récemment. Évreux, c'était un peu plus compliqué parce que c'était à l'extérieur, c'était chez eux, le terrain était compliqué. Il y a eu Beauvais à l'aller aussi. Enfin, il y a eu plusieurs matchs où on méritait mieux, mais voilà, il nous manquait ce petit truc pour faire basculer le match. Mais aujourd'hui, pourquoi pas les titiller Poissy. On voit qu'ils sont, bah, ils sont à 3 points de nous. Donc oui, c'est... avec les échéances qui arrivent, c'est le, comment dire, c'est le moment. C'est le moment.
Eh ben c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, d'aller accrocher le podium pour l'USS Saint-Malo. Merci beaucoup Janine Bérénice d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur et bonne chance pour le week-end prochain contre Rennes.
Merci à vous.
Bonne soirée, merci.
Bonsoir.
Bonne soirée, au revoir.
Radio Bonheur, il est 20h, la suite des déchaînés du football jusqu'à 20h30, juste après les infos. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Train, raffinerie, mairie, les syndicats ont appelé à la grève dans de nombreux secteurs pour la deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Demain, mardi, réunis dès le lendemain de la première journée de mobilisation, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé les cheminots à se mobiliser largement demain. Un appel qui a été suivi. Seul un TGV sur trois circulera ce jour-là, Inouï et Ouigo. De même pour un TER sur 10 dans les régions et un Transilien sur 10 en Île-de-France. Certains syndicats, notamment pour les contrôleurs aériens, ont appelé à la mobilisation également dans le transport aérien. La Direction générale de l'aviation civile a d'ores et déjà demandé aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur 5 à l'aéroport parisien d'Orly demain. Mais les perturbations pourraient être plus étendues, des appels à la grève ayant également été lancés au sein des compagnies aériennes, notamment Air France. Des mairies ont aussi décidé de fermer symboliquement leurs portes demain. À Paris, Anne Hidalgo a annoncé la fermeture de l'hôtel de ville. D'autres villes plus ou moins grandes suivront également le mouvement à l'image de Montreuil. Le mouvement devrait être également très suivi dans les établissements scolaires. Les syndicats de l'éducation nationale et des lycéens ont appelé à la grève dans un communiqué commun, espérant mobiliser plus fortement que la première journée de mobilisation. Eh bien, les universités devraient également être concernées, de même pour les crèches municipales du côté des plus jeunes enfants. La barre fatidique des 2 litres, le litre... La barre fatidique des 2 euros le litre se rapproche à grands pas. D'après les derniers chiffres du ministère de l'écologie, arrêté à la date de vendredi dernier, le prix moyen du litre du gasoil en France a atteint 1,94 €, soit une hausse de près de 3 centimes sur une semaine. Du côté du sans-plomb, le prix moyen du litre atteint 1,91 €, après une augmentation hebdomadaire plus significative de 3,6 centimes. Enfin, la France et l'Australie vont fournir des obus à l'Ukraine. Les deux pays ont signé un accord aujourd'hui qui prévoit la livraison de plusieurs milliers d'obus fabriqués en commun, a précisé le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu.
Dernière partie du magazine des déchaînés du football entre 20h et 20h30 avec l'En Avant Guingamp, messieurs.
Eh oui, Lorient vainqueur, Brest vainqueur, Guingamp vainqueur. Alors ça n'a pas été avec le même papier cadeau, hein, on va dire, que ce que nous ont mis les Lorientais sur la première période, et puis Brest aussi avec ses 4 buts. Mais c'est, comme on le disait ce matin dans la rubrique, et puis même samedi, c'est la victoire qu'il fallait au moment qu'il fallait, Gaëtan. C'était maintenant qu'il fallait gagner absolument pour ne pas se faire peur pour en avant.
Oui, et Guingamp le fait tout le temps, en fin de compte. On s'est rendu compte de cela aussi, c'est que quand ça commence à se rapprocher de quelque chose d'un petit peu dangereux, Guingamp bascule tout de suite rebascule du bon côté, on va dire, et prend cette avance nécessaire sur le bas de tableau. Ça s'était vu quelques fois l'année dernière, surtout sur la phase aller et le tout début de la phase retour.
Souvenir d'un match contre Niort, il me semble.
Oui, en février. Ouais. Et celui-là avait permis d'ailleurs de lancer, je pense, finalement la bonne série jusqu'à la fin de la saison, hein, derrière. Et puis là, ça a été le cas également. Guingamp qui a gagné ce match.
Pas facilement quand même. Hein.
Non, pas facilement. Laborieusement, mais c'est passé. Et du coup, il y a cette avance quand même sur la zone rouge qui est là, alors qu'il faudra confirmer demain, parce que c'est un relégable encore qui affrontera Guingamp demain. Mais voilà, cette victoire-là fait grand bien évidemment à l'EAG.
Oui, la victoire peut-être de la bascule pour les Guingampais, on l'espère. On réécoute ce qui s'est passé à Rodez samedi avec le résumé en musique. La déviation de Guillaume, allez, le deuxième ballon pour Louvambo qui va pouvoir s'avancer et décaler Baptiste Guillaume en bonne position. C'est Elouazani qui est servi, la frappe d'Elouazani, hors jeu, alors que Mpassi avait détourné ce ballon juste à côté. Dommage, ça c'était une belle situation.
Total de situation.
Attention à ce centre ruténois, Basilio qui manque son intervention, attention à Corredor qui récupère dans la surface, Corredor qui est chassé des 16m50, Senaya sur le côté droit, ça fait deux interventions moyennes de Basilio, parce que sur le premier corner tout à l'heure il a relâché un ballon au second poteau, et là ce centre qui semblait absolument sans histoire au premier poteau à ras de terre, il l'a relâché. À 10 minutes pile de la fin de cette première période, c'est parti pour Boissier, ça part plutôt bien, ça passe devant tout le monde, c'est récupéré second poteau avec une frappe, là-bas. Perdu la part des Guingampais, attention avec Senaya qui va pouvoir entrer dans la surface, on est dépeuplé derrière, le centre de Senaya en retrait, et au premier poteau, et ça passe à côté. Ça passe à côté pour Wiliti Younoussa. Besso, long ballon, allez, il faut être là au deuxième. Elouazani lié, allez, Elouazani pour qui, il n'y a pas de solution en profondeur. Il tient debout après son dribble. Elouazani, petit ballon pour Baptiste Guillaume. S'il arrive à se l'emmener, Livolan face au but, la frappe et l'arrêt, c'est pas fini. But de Guillaume, but de Baptiste Guillaume en deux temps sur cette situation. C'est un petit miracle pour les Guingampais qui étaient dominés, qui n'arrivaient pas à se faire trois passes de suite. Et finalement, en pilonnant, en insistant, Elouazani est allé tout droit. Il a percé, Guillaume a décalé, Livolan le face à face raté, mais Guillaume a suivi et il a marqué dans le but presque vide. Deuxième but en deux matchs après le désert pour Baptiste Guillaume. 1-0 pour en avant. Attention à ce ballon dans la surface de Guingamp, c'est sauvé! Énorme sauvetage de Loïc Mbesso sur ce centre, un long ballon en diagonale où on s'est fait avoir. De Rodez, ballon en retrait sur Basilio Boissier qui manque sa tête. Ouais, alors là c'est une énorme occasion pour Elouazani, peut-être pour breaker et tuer ce match. Elouazani, non, c'est pas fini. Elouazani encore. Oh, la parade incroyable de Mpassi dans ce 1 contre 1 avec Elouazani qui était tout seul face à lui. Rodez, on est à 3-20 là, 3-20. C'est bientôt fini, monsieur l'arbitre, il a regardé sa montre. Oh, ils ont mal joué le coup, les ruténois, et voilà, c'est terminé. Avec du courage, avec de la vaillance, ça a tangué, mais c'est exactement le genre de victoire qu'il fallait aux Guingampais pour se redresser dans ce championnat. Guillaume, encore buteur, qui marque peut-être l'un des buts les plus importants de la saison guingampaise, en avant, gagne à Rodez, ouais. Et va pouvoir regarder avec un peu plus d'aise le bas de tableau.
Et ça fait des rimes.
J'ai même... Peut-être, faudrait que je réécoute.
J'ai un pas peu fait plus trop... d'aise à Rodez.
Non.
Pour gagner avec un peu plus d'aise.
Oui, mais non, j'aurais dû dire pour regarder avec un peu plus de hauteur. Vous savez, dans le feu de l'action, on ne choisit pas tout à fait.
C'était difficile, mais très utile.
Voilà, mais c'est vrai que c'est une constante sous Dumont. Guingamp depuis donc 2 ans. Guingamp gagne quand ça devient chaud, mais ne gagne pas quand il y a la petite bascule à faire vers l'avant.
Ouais, c'est vrai.
Donc on verra ce qui se passe demain. En tout cas, ça sera l'objet de notre rubrique aussi de demain. Guingamp a bien mieux démarré sa semaine à 3 matchs.
Ça marche mieux avec le bâton qu'avec la carotte, quoi.
Ben un petit peu, il va peut-être falloir inverser les rôles bientôt. Mais en tout cas, la semaine à 3 matchs qui avait été déterminante dans le mauvais sens pour les Guingampais au début de l'automne, celle qui devait amener Guingamp peut-être sur le fauteuil de leader. Guingamp s'était complètement effondré avec 2 nuls, 0-0, très triste. Et puis la catastrophe contre Annecy avec la défaite 4-0. Là,
une
déjà,
semaine sans but, hein, 3 matchs et sans aucun but à cette époque-là.
Et 3 commentaires de Gaëtan Pinel. Aïe. Et là, il y a déjà 3 points. Donc ça sera plus que sur la première semaine à 3 matchs. On verra ce qui se passe demain, effectivement, contre Nîmes, où les conditions devraient être meilleures que samedi à Rodez, où la température était glaciale, le ressenti était encore pire et la pelouse a été dans un état très très délicat. Ça n'a pas aidé à développer du bon football. Stéphane Dumont, l'entraîneur, parle justement de ces conditions.
Elles n'étaient pas faciles. Alors il faisait effectivement très très froid, mais le terrain n'était pas non plus d'une grande qualité. Et c'est vrai que on le savait la veille du match, on en avait discuté un petit peu, et par contre on pensait que ça serait plus gelé, en tout, mais moins, comment dire, moins souple que ce qu'on a eu là, et c'est vrai que ça ressemblait par moments à un match comme à Nîmes, où bah, il faut être vigilant dans certaines zones du terrain, il faut être parfois assez pragmatique, et c'est ce qu'on a décidé de faire sur ce match. Voilà, j'aime qu'on puisse avoir un jeu léché, qu'on puisse faire les choses avec fluidité. Maintenant, il y a des moments, des contextes particuliers, des moments dans les saisons qui font que voilà, je dois faire en sorte, et mes joueurs doivent faire en sorte d'être un peu plus pragmatiques. Malgré tout, je pense que les conditions étaient difficiles, mais on aurait pu avoir, en tout cas, avoir un peu plus de maîtrise technique. Mais les joueurs ont essayé de tout faire sur déjà sur l'aspect de solidité, solidarité, avoir du caractère. Les conditions sont allées en ce sens.
Oui, parfois il faut savoir gagner entre guillemets ça. Là, on l'a déjà dit cette saison, on repense au match à Laval, on repense à Nîmes aussi, même si la victoire à Nîmes était globalement méritée. Nîmes a eu bien moins d'opportunités que Rodez n'en a eu samedi, même si finalement Rodez n'a pas eu beaucoup d'occasions franches, mais a eu pas mal de situations, quelques temps forts, des centres, et puis Guingamp qui confirme à l'extérieur, Gaëtan, deuxième à l'extérieur, les Guingampais avec 18 points à 1 point du leader Le Havre. Ça, c'est... Alors, évidemment, tout le monde va nous reprendre de voler en disant « Oh, ben, à domicile, ils sont nuls !» Mais oui, mais au moins, à l'extérieur, il y a ce parcours qui sauve la saison.
Oui, 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 parce que sans ça, évidemment, ce serait compliqué. Le classement ne serait sans doute pas le même. Mais oui, Guingamp prend des points à l'extérieur. Alors, c'est souvent aussi signe d'une équipe qui a plus de mal peut-être à faire le jeu quand la différence est aussi marquée entre domicile et extérieur.
Oui.
On va souvent à l'extérieur en se découvrant un peu moins, en jouant plus sur quelques coups en contre-attaque, en laissant davantage le ballon à l'adversaire, ce que fait un peu plus Guingamp, parce que Guingamp n'arrive pas à faire le jeu, hein, ces derniers temps, très clairement, depuis même un petit peu avant la trêve Coupe du Monde. Donc bon, c'est peut-être, et notamment en partie grâce à cela, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister pour les Guingampais, et ça a le mérite de les maintenir dans cette première partie de tableau, ou aux alentours en tout cas du ventre mou, et pas tout à fait proche de la zone rouge, comme ça aurait pu être le cas en fonction du résultat de samedi.
Alors Guingamp est 18e hein, par contre à domicile, et ça tombe bien parce que demain c'est Nîmes qui arrive, et Nîmes est la pire équipe à l'extérieur. Donc je pense que demain les deux vont perdre. Je sais pas comment ça va se passer. Mais
match nul.
Cas, oui, c'est ça va être un moment important hein, pour gagner 2 matchs de suite. C'est pas arrivé souvent.
Nîmes n'a jamais gagné à l'extérieur hein, cette année. Hein.
Voilà.
Mais ils ont 3 points. Et
ça sent le match nul. Statistiquement, normalement demain c'est match nul.
Non, ça va passer. Mais non, je réfléchissais à 2 victoires de suite, c'est pas arrivé depuis les 2 premières journées.
De mémoire.
Pau et Laval.
Ah si, Metz et Saint-Etienne.
C'est vrai. Ah oui, le 6-3-2, hein, ouais. Effectivement. Bon, c'est arrivé 2 fois pour les Guingampais, mais on a l'impression que c'était un autre monde, vu tout ce qui s'est passé depuis pour les Guingampais. Surprise petite surprise en découvrant la composition de l'équipe de Stéphane Dumont, qui avait travaillé sur un 4-3-1-2 durant la trêve Coupe du Monde. Ça avait plutôt bien marché sur les matchs de préparation, ça avait plutôt bien marché aussi sur le match à Nîmes.
Oui.
Et puis patatras contre QRM avec des Guingampais en dessous de tout ce jour-là. Du coup, Guingamp et Dumont qui ont retrouvé des forces défensives avec l'apport de Loïc Mbesso, le retour aussi de Félix Eboué-Bois. Du coup, retour à une défense à 3. Pourquoi ? Réponse de l'entraîneur.
Le fait de revenir à 3, voilà, c'est quelque chose que j'ai préparé toute l'intersaison. C'est comme ça qu'on a débuté la saison, c'est comme ça qu'on a pris nos points. Hein. L'essentiel quasiment de nos points ont été pris dans ce système. Hein. On a très peu pris de points à 4, et notamment à 4, à chaque fois qu'on n'avait pas un profil expérimenté ou un profil un peu de puissance, que ce soit Donna ou Pierre, on a été plus en difficulté. Et c'est surtout lié aussi aux absences de Maxime Civis et Taylor Louvambo. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y en a un des deux qui a été présent, on a joué dans ce système-là et on a été plutôt performant. Maintenant, avec toutes ces blessures depuis le début de saison, que ce soit dans l'axe, et notamment les absences de Maxime Civis et Taylor pendant un long moment, on avait forcément plus le choix.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de la charnière centrale qui a eu d'innombrables absences, avec aussi ces derniers temps l'association Rioux-Roux, qui sont deux bons joueurs de football mais pas forcément les plus agressifs et saignants dans les duels. Mais dans les couloirs aussi, ça a été un peu la catastrophe avec Civis qui est revenu, qui s'est fait opérer, Louvambo qui n'avait quasiment jamais été blessé de sa carrière et qui a pris 3 mois de blessure après son premier match exceptionnel à 2 passes décisives.
Ouais.
Donc là aussi, il y a eu un facteur malchance dans ce secteur-là. Et c'est un joueur dont on a très peu parlé samedi, mais j'ai trouvé que c'était peut-être le joueur le plus régulier du match, c'est Taylor Louvambo à droite.
Oui, il a fait son match, et en plus c'est pas évident pour lui parce qu'il n'a pas eu l'occasion cette saison d'enchaîner les prestations. Il est, parce qu'il y a eu cette blessure de 3 mois, mais quand il est revenu très rapidement, il s'est reblessé pour presque autant de temps, hein, 2 mois peut-être.
Bah, c'est tombé juste pour la trêve.
Il y avait la trêve, donc ça allait parce que ça coupait, on va dire, cette absence, mais il n'empêche qu'il n'avait pas joué là depuis la reprise, donc. Il n'a pas réussi à enchaîner jusqu'à présent. Et oui, il a fait son match, et il faut que les côtés redeviennent des forces à Guingamp, parce qu'on se souvient l'année dernière de l'aile gauche, notamment en deuxième partie de saison, qui était l'un des gros points forts avec Quimper et Livolant. Le côté droit,
qu'il
a été aussi, parce
aussi,
que Civis, sur la deuxième partie de saison, avait notamment délivré beaucoup de passes décisives. Et puis on avait devant lui Merguem qui aussi avait été au rendez-vous. Quand les ailes vont bien, Guingamp, c'est vrai que souvent on retrouve une équipe un peu plus emballante également. Peut-être que ce sera le cas avec le retour notamment de Louvambo.
Oui, mais juste avant une dernière page de réclame dans ce magazine, on parle du nouveau joueur, Loïc Mbesso, qui a disputé donc sa première rencontre samedi, qui a donc permis à Guingamp de ne pas encaisser de but. Il a notamment fait un sauvetage superbe à 10 minutes de la fin sur un centre. On l'a réécouté tout à l'heure. Qu'est-ce que le coach a pensé de sa nouvelle recrue formée au PSG ? Voici son analyse.
Concernant Loïc, ouais, j'ai apprécié son match, même si il découvre ses partenaires, il découvre la Ligue 2. Enfin, il a découvert plein de choses en même temps. Et on était rassurés du côté sur l'aspect défensif, où il est en mesure de gagner des duels, en mesure d'aimer ça. Pour ceux qui étaient au bord du terrain comme moi, on voit qu'il est capable de communiquer, de parler, ça c'est quelque chose d'important. Et donc voilà, je trouve que c'est une première plutôt intéressante, d'autant plus que oui, je nous ai trouvé tout de même solides et encaissé peu de choses, enfin en tout cas concédé peu de choses, donc c'est une première prestation plutôt rassurante.
C'est comme une pyramide, hein. Il faut que la base soit solide pour retrouver un peu d'allant, de jeu, de sourire dans cette saison. Il y a eu la victoire samedi, pas beaucoup de plaisir. On verra ce qui se passe demain contre Nîmes. Dernière page de réclame, et on parle de Baptiste Guillaume.
À tout de suite.
Cette année, Claire a fait Polytechnique. 3 écoles de commerce, une première année de médecine et toutes les classes du CE1 à la terminale. On tenait vraiment à la féliciter.
Claire est conseillère pédagogique chez Acadomia et accompagne chaque année vos enfants dès le primaire.
C'est toute cette expérience qui lui permet de trouver la solution la plus adaptée à chacun de leurs besoins. Alors oui, elle mérite qu'on la félicite. Renseignez-vous auprès d'un conseiller pédagogique Acadomia près de chez vous ou rendez-vous sur acadomia.fr. Acadomia.
Méné.
Alors pour vous, ce week-end, c'est ski, raquette, luche, fondu, bonhomme de neige, patinage, bain nordique et chasse au Yeti. D'accord, mais vous faites comment ?
Bah, je conduis un Mini Countryman. Mini Countryman, édition suréquipée à partir de 395€ par mois, sans aucun apport. Valable jusqu'au 31 mars 2023 sur Mini Countryman, LLD 36 mois. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Méné.
Vous passez vos vacances en Bretagne, et là vous écoutez forcément Radio Bonheur, puis vous retournez ensuite à Paris ou en Île-de-France. La solution est simple. Pour continuer d'écouter Radio Bonheur, retrouvez gratuitement votre radio en direct en utilisant la nouvelle norme de radio DAB. Toutes les voitures neuves sont équipées depuis décembre 2020. Et pour la maison, vous pouvez vous équiper d'un récepteur DAB pour quelques dizaines d'euros. Écologique, gratuite, pratique et anonyme, la réception DAB, c'est la meilleure solution pour écouter Radio Bonheur à Paris et en Île-de-France. À 20h20 avec les déchaînés du football pendant quelques minutes encore.
Oui, et on va parler d'un homme qui, j'allais dire ressuscite, peut-être pas, mais qui enfin retrouve de la réussite. Baptiste Guillaume, qui, on le rappelle, a connu presque une vingtaine de matchs marqués, hein, 23 matchs marqués en Ligue 2, avant de scorer contre Grenoble lors du dernier match à Roudourou. Et il a donc enchaîné sur ce match à Rodez. Et vraiment, Gaëtan, on est persuadé que si cette action-là arrive il y a 3 semaines, Guillaume ne marque pas. Il ne suit pas le ballon comme il l'a suivi là-dessus.
Ouais, c'est bien possible. Ou alors, il n'aurait pas eu le geste pour le piquer légèrement, le passer au-dessus du gardien. Il aurait manqué un petit quelque chose, en tout cas, sûrement dans l'enchaînement de l'action. Et bah, c'est vrai que ce but contre Grenoble lors du précédent match de championnat l'a sans doute libéré d'un vrai poids, parce qu'un attaquant qui ne marque pas pendant là quasiment, alors 23 matchs si on compte la saison dernière aussi, mais avec Valenciennes. Mais s'il n'avait pas marqué contre Grenoble, il aurait fait toute une demi-saison sans marquer un seul but en championnat.
Oui.
Là, ça permet donc de libérer d'un poids et derrière d'enchaîner avec ce deuxième but. Et puis comme il en avait parlé aussi Stéphane Dumont après le match contre Grenoble, il y a un peu comme une complémentarité qui commence à se dégager avec El Ouazzani, même s'ils ne sont pas associés en pointe tous les deux parce qu'ils étaient à 3 avec aussi les volants, mais il y a un petit quelque chose là qui est en train de se créer.
Et forcément, Stéphane Dumont apprécie la métamorphose progressive de Baptiste Guillaume.
Enfin, on le trouve plus épanoui, on le trouve plus ouvert. De la même manière, les joueurs le trouvent bien plus facilement, mais que ça soit sur le terrain, mais hors du terrain aussi. Et le fait d'être dans son registre, le fait de pouvoir lui amener des centres, le fait de pouvoir être dans un point de fixation. Voilà, on l'a vu sur le but. Voilà, il a suivi, il a eu du flair, il l'a mis au fond, c'est toujours intéressant. Mais à l'image de l'équipe, il déroge pas à la règle, c'est une histoire de confiance. Voilà, c'est tout. L'équipe est capable de faire de grandes choses, mais et lui aussi. Mais par contre, bah, dans des moments un peu plus compliqués, voilà, c'est le sport de haut niveau. C'est une question de dynamique, c'est une question de confiance. Il faut être capable de créer ce contexte. Il faut être capable d'assimiler aussi individuellement le contexte, d'aller chercher les choses et d'en faire un peu plus. Et en ce moment, je trouve qu'il en fait un peu plus, donc il est récompensé. Donc ça, c'est une bonne chose pour lui et pour l'équipe.
Mais la confiance, c'est la clé hein, pour tout dans cette formation guingampeuse et puis dans le football en général. Et Dumont, il a très apprécié le but marqué par Guingamp. Déjà, c'est une des rares actions abouties dans le jeu. Et puis, c'est une action où les trois de devant ont été chacun dans leur registre. C'est-à-dire El Ouazzani dans sa capacité à gagner des mètres sur le terrain, à percuter. Il y a une action capitale, c'est une action capitale d'El Ouazzani, parce que pour ceux qui ont vu le but ou qui l'ont revu, il y a quand même une faute sur lui au départ de l'action. Il y a peut-être 9 joueurs sur 10 qui se seraient écroulés pour obtenir un excellent coup franc à 42 mètres du but de Rodez. Non, lui, il est resté debout. Il y a pensé après le match. Il dit heureusement que je suis resté debout, parce que du coup, eh bien, il a gardé son élan et ça a permis de faire le décalage sur Guillaume, qui a été le point d'appui, qui a donné sur Livolan, qui lui, dans son style, est parti en profondeur. Alors, il y a surtout eu un bel arrêt de Mpassi, parce que Livolan, il était pas loin d'ouvrir le score. Et puis, avec le flair, eh bien, Baptiste Guillaume a suivi pour marquer dans le but vide. Ça fait des mois que Dumont se cherche une animation offensive. Oui. Là, il y a des prémices. Ça fait trois matchs. On l'a dit après Amiens, on le dit après Grenoble, on le répète ce soir, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions à Rodez, mais il tient peut-être quelque chose là avec ces trois-là.
Oui, et puis sur ces trois matchs, les hommes qu'on vient de citer ont marqué en partie. El Ouazzani a marqué sur Amiens et Grenoble, Guillaume sur Grenoble et Rodez. Livolan n'a pas marqué, mais
il a été sur le pressing des deux buts contre Grenoble.
Ouais, donc... Et impliqué là sur le but aussi. Donc oui, il y a peut-être quelque chose avec ces trois-là qui est en train en effet de naître. On parlait de la complémentarité Guillaume El Ouazzani qui apparaissait. Mais voilà, il faut inclure sans doute Livolan, certainement même parce que c'est une attaque à trois. Donc il faut l'inclure aussi dans le lot. Et puis parce que les matchs montrent qu'il est aussi présent, même s'il n'a pas l'impact du début de saison hein, où il marquait beaucoup. Mais il n'empêche que voilà, ça va peut-être lui faire du bien aussi d'avoir ces deux hommes-là avec lui devant.
À voir ce qui se passe demain pour enfin essayer de regagner à domicile hein, où Guingamp a perdu 4 de ses 5
derniers matchs. Nîmes. Demain, trois défaites de suite. À quelle heure demain le match, messieurs ?
20h45.
20h45, un horaire un peu bizarre. Bon, prise d'antenne 20h15, on a dit. Hein.
Exactement, pour ce match contre les anciens de Guingamp, oui. Fred Bompard, Thibaut Girès. Est-ce que Guessouma Fofana sera là? Je ne sais pas.
Je pense qu'il sera qualifié hein, parce que
il a signé la semaine dernière.
Oui, donc normalement, alors peut-être que le groupe Nîmois est tombé d'ailleurs, on va regarder tout ça. Nicolas Benezet hein, sera sans doute là
c'est
également.
C'est vrai aussi.
Ah ouais, beaucoup d'ex-Guingampais.
Voilà, le groupe est tombé du côté de Nîmes. Nicolas Benezet est là. Guessouma Fofana.
Il y a marqué Guessoum, c'est
pas ouais, mais
lui.
C'est Kélian Guessoum, ouais, c'est pas
bah
le même.
Non, c'est pas lui.
Et il n'y a pas de Fofana dans le groupe. Il sera pas là, l'autre ancien Guingampais, le dernier de la liste parce qu'il y en a beaucoup. Mais oui, c'est vrai que ça va être un match un peu particulier pour tous ces hommes-là aussi. Et surtout que Benezet, il n'était pas revenu encore à Guingamp hein, depuis son départ en 2019. Oui. Il n'avait pas eu de match puisqu'il a beaucoup joué à l'étranger, aux États-Unis. Donc ça va être le retour pour ces trois hommes-là à Roudourou demain soir avec le Nîmes Olympique.
Alors attention parce que le dernier qui est revenu, c'est Faiton.
Oups.
Il a marqué. Donc bon, on va voir ce qui se passe demain. 20h15, prise d'antenne sur Radio Bonheur. Il reste 3 minutes, un peu plus, un peu moins, dans
oui,
ce 3
minutes,
magazine. Ouais,
3 minutes 30 pour parler
du mercato.
Du mercato,
alors,
ça se termine. Hein.
Du côté de Guingamp, l'information aujourd'hui, c'est le retour de prêt, qui n'était pas forcément attendu,
oui.
De Théo Lenormand, qui ne jouait plus beaucoup à Avranches en national et qui va donc revenir dans l'effectif guingampais. Il ne peut plus jouer ailleurs parce qu'on ne peut pas jouer pour 3 clubs dans une même saison. Il avait débuté la saison avec En Avant. Il n'avait pas fait des mauvais matchs d'ailleurs, donc il aura peut-être une carte à jouer dans l'effectif en Ligue 2. À Brest, ça bouge, puisque Albert Tellis, l'attaquant hondurien de Bordeaux, a été prêté jusqu'à la fin de saison.
Ouais.
Jordan Amavi, lui, ne signera pas, alors qu'il était attendu, l'ancien latéral gauche de Marseille. Et puis, ça pourrait encore bouger à Brest,
oui.
Hein, une autre recrue peut-être attendue.
Exactement, Bradley Loco peut-être sur le côté gauche, justement à la place d'Amavi en défense. Et il devrait même... possiblement y avoir un autre joueur, mais là difficile pour l'instant de savoir si à quel poste c'est, de qui il s'agit. Ça n'a pas fuité pour l'instant, c'est le grand mystère, mais il devrait y avoir un autre joueur dans cet effectif.
Ça pourrait peut-être Jonas Martin,
ouais, c'est un nom qui a circulé mais très brièvement, donc sans plus d'infos pour l'instant. Et là où ça bouge énormément, c'est à Lorient, puisque
oui, alors là, accrochez-vous, hein.
Devrait signer à Nice. Et niveau arrivé, c'est fait pour Bamba Dieng et Romain Fèvre et Jean-Victor Massengo. Il devrait y avoir le gardien Julian Pollersbeck, le milieu de terrain prêté par le PSG Eman Kari, et également un ailier qui arriverait de Norvège. Donc ça ferait 6 arrivées.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme. Alors bon, sur les 6, il y a le gardien Pollersbeck qui serait numéro 2. Et il y a après peut-être voilà l'ailier, il arriverait en complément hein, je pense pour démarrer. Mais par contre Dieng, Makengo et Fèvre, eux ce serait par contre pour être des titulaires à part entière ou en puissance en tout cas.
Romain Fèvre qui retrouve Radio Bonheur.
Oui, parce qu'on l'avait avec le
Brest.
Stade Brestois.
Ouais,
Brest.
Il n'a pas forcément réussi hein, son aventure à l'OL.
Bah, son meilleur match avec Lyon c'était à Lorient il y a presque un an. Il avait marqué 2 buts, avait été très bon, mais c'est vrai qu'autrement il n'y a pas eu grand chose.
C'est bien. Il connaît déjà le chemin du but.
Voilà.
Oui.
Merci messieurs. 20h presque 29, on se quitte là. On se donne rendez-vous avec les déchaînés du football donc demain matin à 8h40. Rediffusion de la rubrique quotidienne à 17h40. Et puis le match de foot de Guingamp hein, sur nos émetteurs costa-armoricains, sur nos émetteurs de Saint-Brieuc, Guingamp et Lannion. Demain soir à 20h15, les Guingampais recevront Nîmes dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 2.
Victoire 2-0. Je vous donne tout de suite mon pronostic.
Je vous réserve encore un peu.
Ouais, moi je vais dire match nul plutôt. Bon, mais bon, on verra demain. Bonne soirée.